Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par donner quelques points de repère de la conférence précédente qui avait été tenue par Guy Poblom et qui parlait du fétiche. Alors, Guy Poblom nous a rappelé que Lacan donc reprend dans ces trois chapitres la question de la dialectique de la frustration à partir de la perversion. Le cadre général, nous dit-il, est la période pré-œdipienne et les personnages principaux sont la mère et l'enfant au seuil de l'Œdipe, donc avant l'entrée dans l'Œdipe. Et la question que Lacan va essayer d'attraper, développer, c'est comment dans cette dialectique de la frustration entre la mère et l'enfant s'introduit le phallus, ou bien comment le phallus peut-il simplement commencer à exister pour l'enfant dans sa relation à sa mère? Alors Guy Poblom nous a rappelé au fond les, j'ai dit trois temps, on pourrait dire trois épisodes finalement de cette dialectique de la frustration, en nous rappelant que dans cette construction il y a deux versants, celui de l'objet d'une part, qui au départ est un objet réel, un objet oral, la nourriture, en tant qu'il vient donner satisfaction à un besoin, celui de devoir manger pour survivre. Et puis l'autre versant, le deuxième versant, c'est celui de l'agent, celui qui apporte à l'enfant cet objet réel, souvent c'est la mère, pas toujours, pris dans un battement de présence-absence. Ce battement, nous dit-il, c'est l'essence même du symbolique, tout comme dans le langage, on parle d'opposition signifiante. La mère prend alors le statut de symbolique. Guy Poblom nous a rappelé en exemple de cela le jeu du Forda que Freud a développé, mais qu'on peut trouver sous d'autres formes que ce jeu de la bobine, et nous a rappelé aussi que le cri de l'enfant pour une mère est déjà pris dans un battement symbolique, ce n'est pas un cri informe parmi d'autres cris, mais elle peut très vite identifier à quoi correspond le cri du tout petit enfant. Donc, dans ce premier temps, l'objet est réel et l'agent est symbolique. Dans le deuxième temps, la mère ne répond plus forcément à l'appel et sort donc du système symbolique de l'enfant. Elle devient bien réelle. L'objet devient le témoin de son bon vouloir à la mère, selon qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas, ou voire qu'elle ne donne plus du tout. C'est donc le don lui-même qui devient le symbole de l'amour. C'est important, car il n'est plus question ici de l'objet comme symbole de l'amour, mais bien du don. Finalement, l'objet symbolique, c'est l'objet perdu, et le passage de l'objet symbolique à l'objet réel introduit l'enfant dans quelque chose qui s'appelle le manque, qui est radical et qui ne sera plus jamais comblé. Donc dans ce deuxième temps, on a l'objet qui prend le statut de symbolique et l'agent, qui peut être la mère, le statut de réel. Dans un troisième temps, c'est opérer un petit décalage et se mettre du côté de la mère pour se rendre compte qu'elle a affaire à son propre manque, même si pour l'enfant, elle reste toute puissante puisque c'est elle qui donne ou ne donne pas. Le phallus entre ici en scène comme étant ce qui manque à la mère, comme étant cet objet imaginaire qui lui manque. Donc ici, dans ce troisième temps, cette troisième étape, Lacan introduit le registre imaginaire et la triade, ce qu'on appelle la triade imaginaire. L'enfant n'est plus l'objet, enfin n'est pas l'objet unique de la mère, mais il n'en sait rien et il est toujours, lui, pris dans cette relation à sa mère. Donc comment l'enfant va s'apercevoir que ce que la mère désire en lui, c'est son image phallique à elle, la mère, et comment va-t-il pouvoir subjectiver le manque de l'autre? C'est toute la question que pose Lacan dans ses chapitres. Alors, Guy Poblom a épinglé au fond cet aphorisme de Lacan que ce qui est aimé dans l'objet, c'est ce dont il manque. On ne donne que ce qu'on n'a pas. Alors, ici au fond, Ce que donne la mère, je suppose, réfère à ce qui lui manque. Et le phallus entre donc dans la clinique du don. Il change de statut, nous dit Guy Poblom, une fois l'Œdipe passé. C'est-à-dire qu'au fond, avant l'Œdipe, il a un statut imaginaire, et après l'Œdipe, il va prendre un statut symbolique. Alors, pour que ce passage passe, donc, pour que ce phallus passe du statut d'imaginaire au statut de symbolique, il y a la traversée du complexe d'Œdipe, mais c'est aussi à ce moment-là qu'un événement peut surgir dans la vie de l'enfant, donc juste avant l'Œdipe, à ce stade pré-œdipien, et que c'est à ce moment-là que peut se jouer quelque chose de l'ordre de la perversion. Quel est alors le rôle du fétiche à ce moment-là? Au fond, nous dit-il, le fétiche représente le phallus symbolique, mais il ne l'est pas. Il noue quelque chose du symbolique et de l'imaginaire. Il se rapporte au phallus de la mère jamais vu. Il nous a indiqué ainsi les arrêts au bord de la jupe ou la chaussure comme objet fétiche. Il est alors ce que la mère possède vraiment. Le fétiche, donc, noue quelque chose de l'imaginaire et du symbolique. Il voile la castration maternelle. Alors, Guy Poblom nous a essayé en tout cas de différencier ce qui était de l'ordre du désir se rapportant au sujet et de l'amour à l'objet, et la fonction au fond du voile entre désir et amour. Et au fond, sur ce voile vient se projeter le manque, l'absence, en même temps que ça le cache, ce manque ou cette absence. Et donc il y a un certain parallélisme, nous dit-il, entre le fantasme pervers et la situation fondamentale de l'amour, puisque l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Il nous a présenté aussi le voile comme souvenir écran. Il peut prendre au fond cette fonction de souvenir écran. Et le fétiche, d'une certaine façon, endosse aussi cette fonction de souvenir écran. Et il est métonymique et diachronique, c'est-à-dire qu'il renvoie à autre chose, à diachronique, c'est-à-dire pas dans un temps simultané. Et c'est aussi le moment où le phallus imaginaire joue un rôle symbolique majeur, nous dit-il. Donc il prend le voile, il prend ce fétiche la même fonction que celle du voile. Et sur ce voile, au fond, cet objet fétiche prend finalement la place de ce voile. Ainsi, il nous a indiqué que le désir est la métaphore de l'amour. Il y a un rapport de substitution synchronique entre le désir et l'amour. Le désir, dit-il, métaphorise l'amour en tant qu'il voile le manque de l'autre. Mais pour le pervers, le voile, c'est le fétiche, et pour le névrosé, ce voile recevrait plutôt la projection de l'objet petit a, cause du désir. Alors, quand quelque chose survient à cette période, au fond, l'enfant va se loger, c'est ce que j'ai dessiné dans le petit triangle ici, l'enfant va se loger entre finalement la mère et le phallus dans une relation spéculaire, et il a à ce moment pré-œdipien, quelque chose peut se tordre au niveau du complexe de castration. L'enfant a alors deux possibilités, soit de s'identifier à la femme confrontée au phallus imaginaire, soit de s'identifier au phallus imaginaire qui manque à la mère. Enfin, Guy Poblom a terminé sa conférence en notant que chez Freud, il y avait finalement une espèce de confusion ou superposition entre les questions d'identification, où dans l'identification, l'objet transforme, enrichit le moi et l'objet est un objet perdu. Et dans l'état amoureux, le moi, lui, dit-il, s'appauvrit. Et il y a introjection de l'objet dans le moi. L'objet donc ici, est plutôt au niveau de l'idéal du moi, alors que dans l'identification, chez Freud, il est plutôt au niveau du moi. Donc, Freud, finalement, noue l'identification à l'introjection et au narcissisme, là où Lacan, lui, les différencie. Et je pense que je vais en rester là pour le... pour se résumer. Alors, je vais passer la parole à Cathy Langelet, qui est notre conférencière de ce soir. Cathy Langelet, qui est d'une part directrice du CRIPSA, qui est le centre de recherche et d'intervention en psychanalyse appliquée à Charleroi, un centre où se passent des consultations adultes et adolescentes, enfants, ou font tout venant. Ce centre aussi a la particularité d'avoir, ce début d'année académique, initié un CPCT adolescent. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des CPCT adultes. Il y en a un à Bruxelles qui sont, au fond, ces lieux où tout le monde peut solliciter une consultation avec un psychanalyste et dont le principe est... que ces consultations soient accessibles à tous, donc elles sont non payantes, de façon, au fond, aussi à ce que la psychanalyse prenne une place dans la cité, d'une certaine façon, et puisse accueillir tout le monde. Alors, ce principe existe donc à Bruxelles pour les adultes, et à Charleroi, Cathy Langelet et son équipe ont mis sur pied tout récemment un CPCT adolescent, où les adolescents sont accueillis sur le même principe de la gratuité, pour 10 séances, si je ne me trompe, renouvelables éventuellement 10 fois. Vous êtes aussi donc psychanalyste à Charleroi et à Bruxelles, et également intervenante, comme vous m'avez dit, après avoir fait toutes les étapes hiérarchiques, si je peux dire, au Courtil. Vous êtes actuellement intervenante au Courtil, et il y a quand même quelque chose... qui vous rallie à l'université de Mons, puisque il y a un temps où vous avez fait vos études ici et où vous avez été donc diplômée psychologue clinicienne de l'université. Vous nous parlez ce soir du complexe d'Oedipe et de castration, les séances 12 et 13. Merci.
Bien, alors une petite précision d'abord à propos du CPCT ado. Ce n'est pas CRIPSA qui initie le CPCT ado. CRIPSA accueille simplement dans ses locaux l'initiative du CPCT ado. Ce ne sont pas les mêmes équipes, même s'il y a des gens qui s'y retrouvent. Mm-hmm. Ce ne sont pas les mêmes équipes. Parce que le CPCT ado est lié à l'école de la cause freudienne et à son orientation. CRIPSA y est bien sûr lié aussi, mais autrement. Et donc ce sont deux structures différentes, bien que situés dans le même lieu. Alors, je vous prierai tout d'abord d'excuser ma voix. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. Et mes éventuels éternuements et tout sautement. J'espère aussi que le brouillard de mes pensées ne va pas trop encombrer mon élocution. Donc, on va faire avec, hein, n'est-ce pas? Alors, du complexe d'Oedipe et du complexe de castration... les chapitres 12 et 13 du séminaire 4. J'ai choisi cette fois-ci, puisqu'au fond, je fais un choix différent de celui que j'avais fait l'année dernière pour le commentaire. J'ai choisi cette fois-ci de plutôt suivre les deux chapitres, plutôt que l'année dernière, j'avais agrafé, épinglé une phrase pour en faire tout un développement. Cette fois-ci, je vais... Bon, je ne suivrai pas chronologiquement nécessairement tout, mais je vais en reprendre une grande partie et le commenter. Et donc je vais partir du chapitre 1 du chapitre 12, c'est-à-dire ce que j'intitulerai « À l'orée de l'Oedipe ». Alors, c'est page 200, je commence par la citation suivante où Lacan dit: il s'agit que l'enfant assume le phallus en tant que signifiant, instrument de l'ordre symbolique des échanges, qui fera de la fonction du père le pivot du drame. Alors, Que faut-il donc pour entrer dans l'Oedipe ? Pour que ce fantastique instrument, cet appareil à organiser la libido, puisse se mettre en place. Il faut donc, nous dit Lacan, que ce qui jusque-là était réel ou imaginaire, c'est-à-dire le pénis, devienne insignifiant pour le sujet. Qu'il passe par la moulinette du Forda, de la présence et de l'absence, et de sa symbolisation. Ce que Freud appelle dans son texte « L'organisation génitale infantile » de 1923, le primat du phallus. Pour les deux sexes, dit Freud, un seul organe génital, l'organe mâle, joue un rôle. Il n'existe pas un primat génital, mais un primat du phallus. Pour saisir la différence de statut entre le pénis réel ou imaginaire et le phallus en tant que signifiant, instrument de l'ordre symbolique, il y a un mythe gréco-égyptien qui en rend bien la portée. C'est le mythe d'Isis et d'Osiris, transcrit en grec par Plutarque. Alors je vais vous lire, parce que c'est un mythe que j'aime beaucoup et qui a tout son intérêt en l'occurrence. Alors, c'est pas ce que vous en connaissez, donc je vais reprendre un peu l'histoire dans son ensemble. Isis et Osiris, amoureux l'un de l'autre, s'étaient unis avant même de naître dans le sein de leur mère. Ils sont frères et sœurs, ça arrive souvent dans les mythes. Et quelques-uns racontent qu'Aaron ou Eris, que les Égyptiens appellent Horus, le vieux, et les Grecs Apollon, naquit de cette union. Donc Isis et Osiris eurent un fils Horus. Dès qu'Osiris régna, il arracha tout aussitôt les Égyptiens à leur existence de privation et de bêtes sauvages. Plus tard, il parcourut la terre entière pour la civiliser. Osiris fit d'abord perdre aux hommes la coutume de se manger entre eux. Typhon, son frère, durant l'absence d'Osiris, n'osa rien innover, car Isis exerçait une surveillance tout à fait vigilante et vigoureusement maintenait toutes choses en bon ordre. Mais au retour de ce dieu, Typhon lui tendit des embûches. Il s'adjoignit 72 complices. Ayant pris en secret la longueur exacte du corps d'Osiris, Typhon, d'après cette mesure, fit construire un coffre superbe et remarquablement décoré. Il ordonna qu'on l'apportât au milieu d'un festin. À la vue de ce coffre, tous les convives furent étonnés et ravis. Typhon alors promit, en plaisantant, qu'il en ferait présent à celui qui, en s'y couchant, le remplirait exactement. Les uns après les autres, tous les convives l'essayèrent. Enfin, Osiris y entra et de tout son long s'y étendit. Au même instant, tous les convives s'élancèrent pour fermer le couvercle. L'opération terminée, le coffre fut porté sur le fleuve et on le fit descendre jusque dans la mer. Informée à son tour, Isis se coupa, dans le lieu même où elle apprit ce malheur, une boucle de ses cheveux et se couvrit d'un vêtement de deuil. La déesse alors erra de tous côtés, alla partout en proie à la plus grande angoisse, et jamais ne s'approcha de personne sans lui adresser la parole. Enfin, étant venue à rencontrer quelques petits enfants, elle s'enquit auprès d'eux du sort du coffre. Il se trouva que ses enfants l'avaient vue, et lui désignèrent la bouche par laquelle les amis de Typhon avaient conduit ce cercueil dans la mer. De là provient qu'en Égypte, on attribue aux petits enfants une faculté prophétique. Isis apprit ensuite qu'Osiris amoureux avait eu par méprise, en la prenant pour Isis elle-même, commerce avec Nephthys, sa sœur. Isis se mit à rechercher l'enfant et, conduite par deux chiens, le retrouva difficilement et à grande peine. Elle se chargea de le nourrir et cet enfant, répondant au nom d'Anubis, devint son accompagnateur et son gardien. On le dit préposé à la garde des dieux. Bientôt, après qu'Isis fut avisée que le coffre soulevé par la mer avait été apporté sur le territoire de Byblos, c'est que le flot l'avait fait aborder doucement au pied d'un tamaris. Isis donc se rendit à Byblos. Et quand elle eut ainsi retrouvé le cercueil, la déesse se jeta sur lui et poussa des gémissements si aigus que le plus jeune des fils du roi en devint comme mort. Secondée par l'aîné, elle plaça le cercueil sur un navire et le ramena. Dans le premier endroit désert qu'elle trouva et quand elle se crut absolument seule, Isis ouvrit le coffre, elle appliqua son visage sur le visage d'Osiris, l'embrassa et pleura. Isis, avant de se mettre en route pour se rendre auprès de son fils Horus, avait déposé le coffre où était Osiris dans un endroit retiré. Mais Typhon, une nuit qu'il chassait durant un clair de lune, le trouva. Reconnut le corps, le coupa en 14 morceaux et, de tous les côtés, les dispersa. Informé de ce qui s'était passé, Isis se mit à leur recherche, monta sur une barque faite de papyrus et parcourut les marais. De là provient aussi que plusieurs tombeaux passent pour être en Égypte la sépulture d'Osiris, car Isis, dit-on, élevait un tombeau chaque fois qu'elle découvrait un tronçon du cadavre, et elle érigeait aussi une statue au phallus. Isis donc fit des images de tout ce qu'elle retrouvait. La seule partie du corps d'Osiris qu'Isis ne parvint pas à trouver, ce fut le membre viril. Aussitôt arraché, Typhon en effet l'avait jeté dans le fleuve, et le lépidote, le pagre et l'oxyrhynque l'avaient mangé. De là l'horreur sacrée qu'inspirent ces poissons. Pour remplacer ce membre, Isis en fit une imitation, et la déesse ainsi consacra le phallos, dont aujourd'hui encore les Égyptiens célèbrent la fête. Donc, Isis, n'ayant point retrouvé les parties sexuelles d'Osiris, en fit construire une image dans les temples et lui attribua un culte particulier dans les cérémonies et dans les sacrifices qu'on fait en l'honneur de ce dieu. C'est pourquoi les Grecs, qui ont emprunté à l'Égypte les orgies et les fêtes dionysiaques, ont le phallos en grande vénération dans les mystères et les initiations de Bacchus. Donc, on voit que Isis, dans ce mythe, opère vraiment une symbolisation du membre viril pour le faire passer à la fois à l'imaginaire, par les statues, mais aussi à sa représentation symbolique. Et dans le texte grec, il y a trois mots différents qui représentent le membre viril, donc le pénis réel, le phallus imaginaire, c'est une image, c'est ton aidon, et le phallus symbolique, qui est ton phallon en grec. Et donc Freud repère ça et s'en empare pour donner donc au phallus un statut symbolique. C'est donc ce passage du pénis au phallus qui permettra l'installation de la fonction paternelle, et pas l'inverse. C'est donc le rapport de la mère au phallus, comme celui d'Isis à Osiris, qui permet ou pas l'accès à la symbolisation de l'organe, et donc qui permet l'accès ou pas au complexe d'Œdipe. Ce qui est très important aussi à remarquer, c'est que le signifiant du phallus, il vient à chaque fois sur le fond d'une absence. Alors, page 201, Lacan dit « Le centre de la problématique de l'Œdipe, c'est la fonction du père. Il ne suffit pas que le sujet, après l'Œdipe, aboutisse à l'hétérosexualité, il faut que le sujet, fille ou garçon, y aboutissent d'une façon telle qu'ils se situent correctement par rapport à la fonction du père. » Donc, on a à l'orée de l'Œdipe la nécessité que le phallus soit installé comme signifiant. C'est l'instrument, l'outil nécessaire pour ensuite pouvoir aboutir au complexe d'Œdipe. Et après être passé dans cette machine, quel complexe d'Œdipe, machine à symboliser, on peut aboutir à la fonction du Père, qui lui alors même se divise en réel, symbolique et imaginaire. C'est un peu le trajet qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Alors, à partir de là, quelle est la différence entre les filles et les garçons? Eh bien, la différence, c'est le complexe de castration. Dans La disparition du complexe d'Œdipe, texte paru dans La vie sexuelle, dans le recueil La vie sexuelle, vous trouvez à la fois le texte que j'ai déjà cité, L'organisation génitale infantile, puis La disparition du complexe d'Œdipe, puis quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes, et puis encore le texte de 1931 sur la sexualité féminine. Ce sont ces quatre textes-là qui sont le socle de ces deux chapitres, en plus évidemment du cas du petit Hans qui lui est étudié tout au long du séminaire. Donc Freud développe dans ces textes-là le progrès des deux chemins chez la fille, puis chez le garçon. La différence qui est à la base de toutes les autres différences entre les filles et les garçons, c'est le complexe de castration. Tandis que le complexe d'Œdipe du garçon sombre sous l'effet du complexe de castration, sous la menace de castration, donc, celui de la fille est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. Cela correspond donc à la différence entre castration accomplie, côté fille, et menace de castration, côté garçon. Donc, prenons le chemin côté garçon d'abord. On a donc comme prérequis ce que je vous ai mis là, au tableau. Donc, il faut avoir, pour rentrer dedans, le phallus comme signifiant. À partir de là, premier temps, la mère, qui était déjà son premier objet d'amour, le reste. Facile. Il ne doit rien changer, simplement, ses sentiments. Il y a un renforcement de ses tendances amoureuses. Et par conséquent, comme il est plus amoureux de sa mère qu'avant, eh bien, le père devient son rival. Premier temps du tout complexe d'Œdipe, donc la mère comme objet d'amour. Deuxième temps, le petit garçon s'occupe beaucoup de son organe génital, il le manipule généreusement, d'où une menace survient, plus ou moins clairement. On lui dérobera cette partie qui lui est si chère. Bien sûr, le plus souvent, et c'est logique, c'est des femmes qui émanent la menace de castration. Donc l'organisation génitale phallique de l'enfant périt lors de cette menace de castration. Le complexe d'Œdipe offrait à l'enfant deux possibilités de satisfaction, une satisfaction active et une satisfaction passive. Il pouvait soit sur le mode masculin se mettre à la place du père, et comme lui avoir commerce avec la mère, auquel cas le père était ressenti comme obstacle. Ou bien il voulait remplacer la mère et se faire aimer par le père, auquel cas la mère devenait superflue. À partir du moment où il accepte la possibilité de castration, l'idée que la femme est castrée, alors il y a un terme qui est mis à ces deux possibilités de satisfaction. Parce que ces deux possibilités de satisfaction, elles incluent la perte du pénis possible. L'une, la masculine, c'est-à-dire que s'il est du côté de se mettre à la place du père, il risque la castration comme punition. L'autre, s'il se met en place à la place de la mère, alors il la risque la castration comme toutes les femmes la risquent. Enfin, il a bien constaté lui aussi, comme les filles, qu'elles sont castrées. Donc c'est comme présupposition. Troisième temps, si la satisfaction amoureuse doit coûter le pénis, alors le moi de l'enfant se détourne du complexe d'Œdipe. Les investissements d'objets, c'est-à-dire la mère ou le père, sont abandonnés. est remplacée par une identification. L'autorité du père ou des parents, qui a été introjetée dans le moi, y forme le noyau du surmoi, lequel emprunte au père la rigueur, perpétue son interdit de l'inceste et ainsi assure le moi contre le retour de l'investissement libidinal de l'objet. Donc ce troisième temps, c'est le temps de l'identification au père. En trois, on y a un, mère comme objet d'amour. Deuxième temps, la mère devient celle qui va énoncer la menace de castration. Troisième temps, la solution possible, c'est l'identification au père. Alors, côté fille, il y a aussi donc ce prérequis de départ. Il faut avoir dans sa poche pour y entrer, dans l'Oedipe, le phallus comme signifiant. Mais il y a tout de suite un premier problème. C'est que comme pour le garçon, pour la fille, la mère est le premier objet d'amour. Alors pourquoi s'en détourner? Pourquoi s'en détourne-t-elle? Le pas suivant, donc dans la phase phallique, c'est une découverte lourde de conséquences. La fille remarque le grand pénis d'un frère ou d'un autre camarade. Elle le reconnaît comme une réplique supérieure à son tout petit organe caché. Et dès lors, la fille est victime de l'envie du pénis. Se forme ce qu'on peut appeler chez elle un complexe de masculinité. De là donc trois conséquences. Un sentiment d'infériorité s'installe, tout comme une cicatrice chez la femme qui reconnaît sa blessure narcissique. Deuxièmement, la jalousie s'installe. Et troisièmement, la mère est rendue responsable du manque de pénis. Donc, premier temps, la castration comme réalisée qui donne l'envie du pénis et ses conséquences. Deuxième temps, pour la fille, c'est le temps où elle renonce au désir du pénis pour le remplacer par le désir d'enfant. Et par conséquent, elle prend le père comme objet d'amour. Donc, elle fait une équivalence. À pénis, elle met enfant à la place. Et pour obtenir l'enfant, eh bien, elle se tourne vers le père, parce qu'il faut le père comme instrument. Et la mère devient objet de jalousie. Donc, ce qui me semble important, c'est que le père n'est pas premier, mais il est secondaire dans l'organisation oedipienne de la fille. Il n'est au fond au départ qu'un instrument nécessaire au désir d'enfant. Il n'y a pas chez la fille de motif à la destruction du complexe d'Oedipe. La castration a déjà produit son effet. Chez le garçon, c'est la castration qui met fin au complexe d'Oedipe, tandis que chez la fille, eh bien, c'est déjà opéré. C'est ce qui lui permet d'entrer dans le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe échappe donc à sa disparition sous la menace de castration. Il peut être abandonné lentement, liquidé par refoulement ou encore très actif dans la vie mentale de la femme. Alors, quelles sont les conséquences de ce chemin rendu plus difficile par la réalisation de la castration? Eh bien, la femme reconnaît le fait de sa castration, et avec cela, dit Freud, elle reconnaît aussi la supériorité de l'homme et sa propre infériorité, mais elle se révolte aussi. Et trois orientations pour la suite en découlent. Première orientation possible, se détourner d'une façon générale de la sexualité. No sex. Deuxième orientation possible, ne pas démordre de sa masculinité menacée avec le fantasme d'être malgré tout un homme. Ce complexe de masculinité de la femme peut aussi s'achever en un choix d'objet homosexuel. C'est deuxième orientation, c'est au fond être un homme, faire l'homme. Troisième orientation possible, celle que Freud appelle normale, c'est l'attitude féminine normale, dit-il, qui choisit le père comme objet et trouve ainsi la forme du complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe est créé sous l'influence de la castration. Il arrive même très souvent qu'il ne soit pas surmonté du tout par la femme. Alors la phase du lien exclusif à la mère, la phase dite pré-œdipienne, est plus importante chez les filles. Beaucoup de filles qui ont choisi leur mari selon le prototype paternel répètent sur lui, dans leur mariage, leur mauvaise relation avec leur mère. On penserait que le mari devrait hériter de la relation au père, et en fait, il hérite de la relation à la mère. La relation à la mère était la relation originaire sur laquelle était construit le lien au père. Mais maintenant, dans le mariage, émerge du refoulement ce qui était à l'origine. Si beaucoup de femmes donnent l'impression que leur maturité est pleine de querelles avec le mari, comme l'a été leur jeunesse avec leur mère, cela provient de la phase précédant le complexe d'Œdipe et n'a été que renforcé par le complexe d'Œdipe. Alors, nous arrivons ainsi page 202 du séminaire 4, où Lacan, je le cite, dit « Nous pourrions dire que le phallus, la fille l'a plus ou moins situé dans l'imaginaire où il se trouve, c'est-à-dire dans l'au-delà de la mer, à travers la découverte progressive qu'elle fait de l'insatisfaction foncière qu'éprouve la mère dans la relation mère-enfant. Il s'agit alors pour elle du glissement de ce phallus de l'imaginaire au réel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, Lacan indique là que si pour la petite fille, le phallus n'était pas encore insignifiant, néanmoins, elle en avait déjà touché, approché quelque chose dans ce qu'elle a pu ressentir comme insatisfaction de la mère. Elle a pu mesurer, la petite fille, qu'elle ne suffisait pas entièrement à la satisfaction de sa mère, qu'elle ne parvenait pas à la combler, qu'il lui manquait encore quelque chose. Alors la petite fille trouve alors le pénis réel là où il est, au-delà, dans celui qui peut lui donner à l'enfant, dans celui qui peut lui donner un enfant, pardon, à savoir dans le père. C'est en tant qu'elle ne l'a pas, et même qu'elle y renonce, qu'elle pourra l'avoir comme don du père. Il y a donc fixation au père comme porteur du pénis réel, comme celui qui peut donner réellement. Celui qui peut donner réellement l'enfant. L'Œdipe, en tant que chemin d'intégration dans la position hétérosexuelle, est beaucoup plus simple pour la fille, mais il apporte toutes sortes de complications, voire d'impasses. Alors à partir de là, il ne s'en faut pour elle que d'un peu de patience pour qu'au père vienne enfin à se substituer celui qui remplacera, qui remplira exactement le même rôle, le rôle du père, en lui donnant effectivement un enfant. Alors, tout cela a des conséquences très concrètes, des conséquences cliniques dans la vie quotidienne des couples. Je vais maintenant m'attarder à cela. À trois conséquences. Ah, tiens, quatre. Je suis arrivée à quatre. À quatre conséquences qui se déploient dans la vie quotidienne des couples. Première conséquence possible, la diminution, voire la disparition de la vie sexuelle après le mariage. l'installation en ménage ou la naissance d'un enfant. C'est au fond une plainte fréquente, pas nécessairement constante bien sûr, dans la vie des couples. Après le mariage, et même souvent juste avant, monsieur trouve une maîtresse et commence une double vie. Parfois même, il se leurre jusqu'à croire qu'il s'est trompé d'amour et ce sera le divorce. Pour que se répète un peu plus tard, bien sûr, le même scénario. Il y aura deux femmes dans sa vie, puisque celle mise en position de mère est interdite, et donc la vie avec elle et son commerce sexuel n'est rendu possible qu'à condition d'en désirer une autre. C'est ce que Lacan appelle la bigamie fondamentale du mal. Page 213. S'il est vrai, dit Lacan, que la crise essentielle par où tout sujet s'habilite à être oedipianisé de plein droit, soit la castration, alors toute femme qui n'est pas permise est interdite par la loi. Tout mariage porte donc en lui la castration. Premier problème donc. On comprend pourquoi côté homme c'est plus difficile d'y consentir et que côté femme c'est un rêve. Deuxième problème. Notre civilisation a vu fleurir une confusion de l'idéal de l'amour et du conjugal, de l'amour et de la loi. Notre civilisation a mis au premier plan le mariage comme fruit symbolique du consentement mutuel. C'est-à-dire pousser si loin la liberté des unions, au fond, elle confine toujours à l'inceste. En effet, le choix d'objet d'amour est toujours conditionné inconsciemment par le père. Donc, il s'agit toujours finalement de se marier avec le père. Vous comprendrez dès lors les difficultés symptomatiques que cela peut produire au niveau de la vie sexuelle. Deuxième conséquence possible, la misogynie et le mépris. Beaucoup de femmes se plaignent du mépris dont elles sont l'objet, de la misogynie de leur conjoint, de leur collègue masculin, etc. C'est vrai. Freud en était déjà page 143 de la vie sexuelle. Un certain taux de mépris envers la femme reconnue comme châtrée est ce qui reste aussi chez l'homme de l'influence du complexe de castration. Il s'ensuit dans les cas extrêmes une inhibition du choix d'objet et une homosexualité exclusive. Mais il ne faut pas qu'elle perde de vue que ce mépris, cette misogynie, elle la porte tout aussi bien envers les autres femmes. Freud note page 146 de la sexualité féminine donc. Quand la petite fille fait l'expérience de sa propre déficience à la vue de l'organe génital masculin, ce n'est pas sans hésitation et sans révolte. Elle conserve longtemps l'espoir d'en recevoir un. Au début, l'enfant prend cette castration comme une malchance individuelle. Plus tard, elle l'étend à d'autres enfants et finalement à d'autres adultes. Lorsqu'elle a l'idée de la généralité de ce caractère négatif, elle dévalorise grandement les femmes et sa mère. Mais, et donc là, elle passe à la misogynie pour les autres femmes et pour sa mère. Mais ce qu'elle pourra découvrir ensuite, si elle fait une analyse, c'est que ce mépris qu'elle attribue aux autres, qu'elle attribue aux hommes, les hommes la méprisent, ou qu'elle projette sur d'autres, sur les femmes, ou des femmes, eh bien, elle l'a bel et bien pour elle-même. C'est la part pour laquelle elle s'est mise en position d'infériorité lorsqu'elle a découvert sa castration en regard d'un sexe masculin à portée de vue. Troisième conséquence, dans la vie quotidienne des couples, c'est le reproche. Le reproche qui est dans un premier temps adressé à la mère, plus ou moins consciemment, et qui se module selon des thèmes variables mais tout de même avec une constante. La mère n'a pas donné ce qu'il fallait à l'enfant. Entendez donc toutes ces déclinaisons. Elle n'a pas donné suffisamment de lait. Elle n'a pas donné suffisamment d'amour. Elle l'a contraint, la petite fille, à partager avec d'autres. Elle n'est jamais là quand il faut. Elle ne donne jamais les bons cadeaux. Elle demande toujours plus qu'elle ne donne. Elle est pingre. Elle ne permet pas l'accès à la féminité. Elle s'offre toujours les plus beaux vêtements. Elle parle, mais elle ne veut rien entendre, etc., etc., etc. Ce reproche, qui est aussi le cœur du ravage dans les relations mère-fille, sera celui qu'on retrouvera plus tard dans la relation conjugale. Ce reproche de ne pas donner ce qu'il faut, la femme l'adressera ensuite à son conjoint, et elle ne l'en aimera plus que quand il sera lui-même aussi castré, malade, handicapé, ruiné, etc., et en même temps l'en détestera davantage de ne plus rien pouvoir lui donner. Quatrième conséquence possible, l'idéal monogamique de la femme qui provoque sa jalousie. Page 203, Lacan dit « Il y a chez elle une balance entre le renoncement au phallus et la prévalence de la relation narcissique. Le renoncement une fois fait, le phallus est par elle-même abjuré comme appartenance et devient de l'appartenance de celui auquel, dès lors, s'attache son amour, le père. Cette attente de ce qui, dès lors, n'est plus pour elle que ce qui doit lui être donné, la met dans une dépendance très particulière. Elle en fait l'être le plus intolérant à une certaine frustration, c'est-à-dire pas question pour elle de partager le phallus avec une autre. Elle devient donc le plus souvent très jalouse et exclusive. Alors en mars 1998, Jacqueline Miller donnait un cours à l'Université de Paris 8 qui sera ensuite publié sous le titre « Un répartitoire sexuel » et que l'on peut trouver dans un numéro de la revue de la cause freudienne, qui est le numéro 40, intitulé « Les maladies d'amour ». Alors ce texte que l'on trouve là est drôle, comique même par moments. Ce texte fait la somme des conséquences subjectives, érotiques et relationnelles de la différence anatomique des sexes. On peut représenter, dit Miller, de façon élémentaire, la notion que l'être féminin est à penser comme amoindri, marqué d'un moins. C'est une idée qui s'enracine dans la comparaison imaginaire des corps. C'est de cette comparaison imaginaire que Freud a fait surgir la découverte de la castration de l'autre par l'enfant. Il y a un hiatus entre le fait d'observation et les conséquences que le sujet en élabore. Cet épisode est, si l'on veut suivre Freud, le principe de la déchéance de l'être féminin et aussi le principe de la menace qu'il est susceptible, cet être féminin, d'incarner pour celui qui est le propriétaire de l'organe, qui fonde son unité et sa totalité, donc il est susceptible d'incarner une menace, la menace donc de castration. Miller fait ensuite remarquer que la féminité aime à se parer des signes de la déficience, comme si porter un de ces signes accentuait le caractère de la féminité. La femme pauvre, la femme battue, la femme blessée, humiliée, etc. Et par une inversion dialectique, tous les traits contraires peuvent devenir aussi fascinants. La femme trop riche, trop puissante, inflexible. Cet excès est la marque même qui indique que derrière ce voile se cache le moins irrémédiable, donc ce moins-là est bien caché derrière le voile du trop, et que c'est pour cela qu'elle va toujours trop loin. Côté mâle, on est dans la juste mesure. L'équilibre, le tout, le un, Alors, cette structure au niveau de l'être se répercute au niveau de l'objet. Côté homme, l'homme, donc l'objet, pardon, prend la forme d'un élément qui a la forme de l'unité, c'est-à-dire l'objet A. Côté femme, on est plutôt du côté de l'érotomanie, ce qui suppose que l'objet est moins objectal. C'est un objet support de l'amour. Chez le mâle, le désir passe par la jouissance, c'est-à-dire requiert le plus de jouir, le petit a, le regard par exemple. Tandis que côté femme, le désir passe par l'amour. Il faut qu'on lui parle d'amour. Alors pour illustrer cette discorde fondamentale entre les hommes et les femmes, ce répartitoire sexuel s'originant de ce point originel, c'est-à-dire la castration, je vous lirai trois passages d'un roman dont je vous conseille vivement la lecture, qui est très réjouissante, amusante. C'est un roman d'Alice Fernet qui s'appelle « La conversation amoureuse » qui est paru chez Actes Sud. Il s'agit de la rencontre de deux amants et de l'inévitable ratage de cette rencontre. Se sont-ils même jamais rencontrés, peut-on se demander, à la fin du livre? Mais avons-nous jamais rencontré l'autre, le partenaire? Y a-t-il même une rencontre possible entre les hommes et les femmes? Alors, le premier passage que je voulais vous lire, c'est un passage qui est au tout début, donc lorsque Pauline et son amant se rencontrent. Il sentait que cette femme n'était pas prête. Elle attendait. C'était son plaisir, en ce jour, retardé dans le pressentiment de l'issue. Il ne savait pas pour quelle raison, puisqu'elle le voulait, mais une habitude qu'il avait de la séduction le renseignait, sans qu'il doutât de son intuition. C'était comme ça, et pourquoi pas, se dit-il. Il pouvait dans le même temps se plier de bon gré au rythme de cette féminité et en même temps le déplorer. Il avait conscience de faire un effort. Il s'efforçait de se mettre à la place de l'autre. Elle ne sait rien de moi, se disait-il. Aussi se contenta-t-il de « Voulez-vous boire quelque chose ?» Et elle répondit volontiers. Et ils s'assirent à une terrasse qui était pleine de monde. Et tout cela, pensa-t-il, la contemplant assise dans l'embellissement de son désir, n'était que des tours étant perdus et couardises. Tandis qu'elle était simplement fervente, soudain persuadée de sa beauté dans l'or vespéral étourdi par son bien-être, et qu'elle goûtait, avec ce sel du secret et de la nouveauté, une liesse intime qui avait tout son temps. Pourquoi se hâter dans la liberté d'éblouir ? L'horloge des femmes et celle des hommes dans l'amour n'ont pas les mêmes aiguilles. Alors, au milieu du roman, ils se sont donc déjà rencontrés. Pris par son charme spécifique, il succomberait plus que d'habitude. Voilà ce qu'elle espérait. Elle serait unique, irremplaçable, parce qu'elle l'était réellement. Je suis vaniteuse, pensa-t-elle. Puis elle cessa de le penser et recommença de l'être. Il la regardait comme on contemple un objet, sans lui parler et souriant. Elle se voulait être la seule et il la contemple comme on contemple un objet. Alors, pour Pauline, cet homme l'habitait. Sa présence était si obsédante qu'elle devenait réelle. Mais Gilles André était-il pareillement captivé ? Pauline Arnoux rêvait qu'il le fût. Mais c'était sans y croire. Ça ne se pouvait pas. Les hommes ne mettaient rien en suspens à cause d'un amour. Ils aimaient à côté de ce qu'ils faisaient, en marge de ce qui les occupait, de ce qui les rendait importants et indispensables. Ils n'étaient insistants et persévérants que pour lancer les histoires. Ensuite, les cœurs féminins faisaient de grands voyages abreuvés de larmes, d'espoir et des mots qu'ils disaient pour justifier leur désertion. Voilà. Ces trois petits passages pour indiquer l'énorme fossé entre les hommes et les femmes. Et tout le roman est ainsi fait. On entend Pauline penser, on entend Gilles penser, jamais ça ne coïncide. Alors maintenant, venons-en au père, qui doit être la production de ce chemin du complexe d'Œdipe. Résultat donc de l'opération œdipienne, si elle est réussie. C'est là son but à l'opération œdipienne, de permettre au sujet de se situer justement par rapport à la fonction du père. C'est-à-dire qu'il accède lui-même un jour à cette position si problématique et paradoxale d'être un père. Alors, page 205, Lacan dit « Si tant est que pour chaque homme, l'accession à la position paternelle est une quête, il n'est pas impensable de se dire que jamais personne ne l'a vraiment été complètement. Mais dans la dialectique, nous supposons qu'il y a quelque part quelqu'un qui peut assurer pleinement la position du père. Cette supposition était essentielle à tout le progrès de la dialectique œdipienne. L'enfant donc cherche quelqu'un qui peut répondre et qui répond qu'en tout cas le pénis réel, c'est lui qui l'a. Ce n'est qu'à partir de là que privé de l'objet par celui qui l'a, que l'enfant peut concevoir que ce même objet symbolique lui sera un jour donné. Donc l'assomption du signe même de la position virile, de l'hétérosexualité masculine, implique la castration à son départ. Parce que le mâle possède un appendice naturel, qu'il détient le pénis, il faut qu'il le tienne de quelqu'un d'autre, de celui qui est vraiment le père. L'enfant ne peut entrer dans cet ordre de la loi que si au moins un instant, il y a eu en face de lui un partenaire réel, quelqu'un qui a apporté au niveau de l'autre quelque chose qui est de l'ordre d'une réponse, quelqu'un qui répond. Le seul qui pourrait répondre à cette position en tant que père symbolique, ce serait comme le dieu de Moïse, celui qui pourrait dire « Je suis celui qui est ». Mais cette phrase ne peut être prononcée par personne, sinon par un buisson ardent. Le père symbolique est donc à proprement parler impensable. Le père symbolique n'est nulle part. Mais il faut un père réel, pour en prendre l'incarnation, ne fût-ce qu'un instant, dit Lacan. Je vous rappelle le mythe d'Isis et d'Osiris. C'est Isis qui installe le phallus symbolique, signifiant du père. Mais Osiris a quand même fait une brève incarnation, et cela a suffi. Dans le chapitre 13, Lacan développe ensuite deux autres aspects du père, le père réel et le père imaginaire. Donc, le père symbolique, c'est donc celui qui est impensable. Le père imaginaire, c'est celui auquel nous avons tout le temps affaire. C'est celui auquel s'adresse toute la dialectique de l'agressivité, de l'identification, de l'idéalisation. Le père imaginaire, c'est mon père, ce héros. C'est le père qui forme le support psychologique des relations aux semblables, des relations imaginaires. Le père réel, lui, est d'une appréhension beaucoup plus difficile. car c'est celui qui se cache derrière le père imaginaire. Le père réel, c'est le père tel qu'il est, au-delà de son personnage imaginaire. Et c'est ce qui est extrêmement difficile à appréhender. Toute l'expérience analytique nous montre comment nous avons besoin de ne pas le voir. Comment nous avons donc beaucoup de peine à l'apercevoir, beaucoup de peine à apercevoir ce qu'il y a de plus réel autour de nous, c'est-à-dire les êtres humains tels qu'ils sont. Alors pour l'anecdote, et pour vous faire apercevoir cette distinction entre père imaginaire et père réel, je vous raconterai un des premiers bienfaits thérapeutiques inattendus de ma propre analyse. Ce n'est évidemment pas cela que j'espérais comme guérison, puisque je n'aurais même pas pu l'imaginer. Comme quoi, nos demandes sont toujours très limitées par notre imaginaire. Et on peut obtenir donc bien plus qu'on pourrait imaginer. Donc, au début de cette analyse, je me plaignais énormément de mon père, que j'avais décrit comme un personnage terrible qui ne me donnait jamais ce à quoi j'avais légitimement le droit. Et me retrouvant dans une situation délicate, j'en conclus en analyse qu'il n'était pas question d'en parler à mon père. Que j'en étais bien sûre, il allait encore me dire que c'était de ma faute, ce mauvais pas dans lequel je me trouvais, qu'il ne me restait plus qu'à tirer mon plein. L'analyste, dans une très grande économie de moyens, conclut simplement sur ces mots « Ah, vous croyez ?» Sortant de séance, en bougonnant, je me disais que je lui avais déjà bien pourtant parlé de mon père et qu'il aurait quand même bien pu comprendre. Arrivé une demi-heure plus tard devant mon père, le « Ah, vous croyez ?» résonnait encore. Et croyant ne rien dire, je me mis à déballer mon sac. Mon père allait démarrer sa petite chanson quand surgit de ma bouche un crapaud. Une phrase incroyable, inconnue. Je lui dis, je sais que tu es inquiet, mais ça va aller, je vais m'en sortir. Il se mit alors presque à pleurer et n'entama pas sa rengaine. Derrière le père imaginaire, le père tyran domestique que j'avais décrit, j'avais pu un instant apercevoir le père réel, l'homme angoissé pour l'avenir de sa fille. Cet accident parcours, rendu possible par le transfert à un analyste en position paternelle et ayant proféré un « Ah, vous croyez ?» a été un tournant majeur, parce que quand on a pu apercevoir le père réel, il ne se laisse plus tout à fait oublier derrière le père imaginaire. Pour revenir à Jacques Lacan et à son séminaire, c'est donc au père réel qu'est effectivement déférée la fonction saillante dans le complexe de castration. La castration est toujours liée à l'incidence du père réel. Elle peut aussi être marquée d'une façon profonde par l'absence d'un père réel. Cette atypie demande alors la substitution au père réel de quelque chose d'autre, ce qui est toujours profondément névrosant. Alors, pour terminer, je vous propose un bond vers un séminaire plus loin, le séminaire 5, que Jacques-Alain Miller commente dans un petit bouquin intitulé « Du nouveau », qui est une introduction à ce séminaire 5, et qui donne une merveilleuse lecture des trois temps de l'Oedipe côté père. Alors, les trois temps sont les suivants. Premièrement, le temps de l'identification. Donc, le temps d'identification du sujet en miroir à l'objet du désir de la mère, c'est-à-dire au phallus imaginaire. Donc, le temps où tout se passe entre l'enfant et la mère. Entre la mère et son phallus imaginaire. Le temps, on pourrait dire, où tout va bien. Le temps de l'harmonie. Le père étant là, d'une présence voilée et implicite, là même s'il n'est pas là d'ailleurs, puisqu'il est là dans la société, il est là dans l'ensemble humain. C'est le temps du Père comme présence. Deuxième temps, c'est le temps du Père qui prive. Il arrive dans sa fonction d'interdiction et de privateur, en particulier de la mère. Tous les commentateurs de Lacan ont adoré ce temps. Mais Lacan, lui, ne trouve pas ce temps très riche de potentialité. C'est le temps du Père tout-puissant, de celui qui châtre la mère. C'est le temps du Père qui dit non et qui intervient dans un statut symbolique. Troisième temps, le plus important, le temps du Père qui dit oui. C'est le contraire du Père qui prive. C'est le Père qui a. Et c'est le Père qui donne. C'est le Père là qui intéresse Lacan. Celui qui a, celui qui donne et qui promet surtout pour plus tard. C'est la permission, dans les bonnes conditions, qui est le concept fondamental chez Lacan et pas l'interdiction. Donc c'est le temps du Père qui dit oui après avoir dit non. Voilà, je voulais vous laisser là-dessus, sur ce dire que oui.
Merci beaucoup. Il y a peu de points qui m'ont posé question parce que je trouvais votre exposé vraiment très, très clair, mais une est surgie peut-être en à côté de me dire au fond, on voit surgir des études par exemple sur les familles. Où deux femmes vivent ensemble, ou deux hommes, et la question de la place des enfants dans ces couples. Et au fond, de savoir si, voilà, ils pourront trouver leur orientation en tant que sujet sexué dans leur construction psychique dans ces couples-là. Et je me dis, voilà, c'est peut-être pas des... comme ça peut se faire sous certains abords, des grandes tendances ou des canevas répétitifs qu'il faut chercher à identifier dans ces nouvelles familles du tout, mais c'est au fond voir comment on s'oriente justement de cette fonction paternelle et comment elle est introduite dans ces couples. Mmh. Voilà.
Oui, mais donc quand c'est une fonction... elle peut être occupée par une femme aussi, par exemple. Pas de raison. Il faut... Ce qui est essentiel, il me semble, c'est qu'il y ait deux positions différentes dans un couple parental. Dans un texte qui relie la lettre au père de Kafka, il y a une indication très précieuse quant à l'interprétation de cette lettre au père, en disant l'interprétation qui va du côté de la psychose, en indiquant que chez Kafka il faut lire la psychose, et que s'il faut le lire comme ça, c'est parce que les deux acteurs du couple parental sont exactement dans la même position. Donc la jouissance du père, qui est écrasante, envahissante, et que Kafka a beaucoup de mal à se soustraire, et il ne s'en soustrait que par l'écriture, avec beaucoup de difficultés, eh bien, elle n'est pas du tout mise en dialectique par la position de la mère. C'est-à-dire que l'enfant est pris et n'a aucun abri. Il n'y a pas un signifiant 1, signifiant 2, il n'y a qu'un auquel il a affaire. La fonction du père, en l'occurrence, qui serait de mettre un bâton dans la grande bouche ouverte du père, là, de celui qui tient le rôle du père. Ça aurait dû être la mère qui aurait dû la mettre là. Donc c'est parfois la mère qui peut mettre en route la fonction paternelle. en quelque sorte. Mais je suis sûre que je n'ai pas été aussi claire que ça. Parce que moi-même, tout ne m'a pas semblé clair. Alors, vous avez sûrement des questions.
Alors voilà, vos questions.
C'est peut-être tellement pas clair qu'il n'y a même pas de questions.
Oui.
Qui peut le père réel, c'est celui qui incarne, au fond, qui donne incarnation à la fonction symbolique. D'accord? C'est celui qui... C'est l'homme qui vient faire incarnation à la fonction symbolique. Non. C'est l'homme. Ça peut être une femme aussi. Mais ça peut être, par exemple... Un exemple clinique auquel je pense là. Ça peut être, dans certains cas, plusieurs personnes ou plusieurs instances qui prennent cette fonction au père réel qui est splitté sur plusieurs personnes, sur un oncle par exemple, pour un enfant qui reste seul avec la mère. Eh bien, le père peut être diffracté sur plusieurs personnes, sur l'occurrence. Là au cas auquel je pense, c'est sur l'oncle maternel, sur un des compagnons de la mère, sur le chat, et sur le grand-père aussi, sur le grand-père qui lui donnera l'orientation pour l'existence. Donc ça fait quatre incarnations, parce que le chat, ça a l'air rigolo, mais en même temps, c'est vraiment la présence tendre. C'est une incarnation, c'est du vivant qui refile quelque chose quand même. Même si là, c'est pas du côté de l'orientation dans l'existence, c'est quand même le père comme tout doux. Et donc, il y a plusieurs manières de l'incarner, ce père réel. Alors, je ne dis pas que toutes les manières sont les plus saines possibles, mais un sujet se débrouille avec ce qu'il a à portée de la main dans son entourage.
Et au fond, pour faire un peu écho à la question de monsieur, vous avez parlé de ce père incarnant un trône jouissance, au fond. On voit bien que là, on a affaire à un réel du père, à ce moment-là. Et je me demandais... si au fond dans la clinique on pouvait repérer des différences selon que, quand je dis le père c'est la fonction paternelle, il y aurait selon que certains pères ou personnes tenant place et lieu de cette fonction auraient un débordement du côté de un trop de jouissance, ou bien à l'inverse d'une absence totale de la présence du père et de sa fonction.
Un tout petit peu de précision.
Eh bien, donc, l'enfant peut être confronté à un père qui est en chair et en os, bien réel,
oui.
Qui, à l'occasion, par exemple, je ne sais pas, pourrait être violent. Tout comme, dans certaines familles monoparentales, le père, non seulement n'est pas présent physiquement, mais peut être aussi tout à fait absent, par exemple, du discours de la mère. Mm-hmm. Donc, dans les deux cas, cette fonction symbolique... fait défaut ou est défaillante, et au fond, est-ce que ça peut se repérer de façon différente dans la clinique? Ce n'est pas le même positionnement d'un trop ou d'une absence, mais en tout cas de quelque chose
qui... Déjà, à partir de deux situations comme ça, on a des tonnes de possibilités différentes selon les enfants même d'une même famille. Selon que l'un va accrocher à un autre personnage autour de lui pour pallier à sa, aux défauts qu'il y aurait. Je pense que un prêtre, par exemple, qui peut venir occuper pour quelqu'un une position éminente, de faire fonction de paternel face à un père trop absent, ou bien même face à un qui vient faire un...
interdictrice, voilà, qui vient faire instance interdictrice par rapport à un père trop violent. Ou... Mais ça, il faut que le sujet l'accroche. Hein. Ce n'est pas une manière de l'imposer. C'est, ça peut être un service de protection de la jeunesse qui, à l'occasion, prend une place comme ça, de médiateur, de faire fonction paternelle pour un temps. Ça peut, dans certains cas, marcher, dans d'autres pas. Enfin, c'est vraiment tellement variable que, dans une même famille, avec les enfants qui ont la même constellation, on a néanmoins des pères différents, des fonctions paternelles différentes pour chacun des enfants.
Un psychanalyste dans le meilleur des cas.
C'est
la même façon. D'ailleurs, quand on pense à ça, on pense à quelqu'un de mieux. Bon, Farzad a cette formule ironique, celui que Bergoglio incarnait à un moment la paternité, représentait la paternité.
Pas le même statut.
Il n'a pas du tout le même statut. Mmh. Et je reprends le que Balzac a construit un roman, peut-être un roman là-dessus. Il n'y a pas un roman d'inceste, évidemment. C'est amoureux, vraiment. Ah. Bon, le père symbolique, absolument pensable, c'est. On peut dire ça que c'est quelque chose. On donne jamais de conseils. La quête du garçon
à la quête du garçon qui...
Il y a ce terme de quête. En fait, je dis ça
parce que oui.
Un conseil qu'on peut donner après tout, c'est que faut jamais trop en faire. On ne recommande à personne de vouloir s'égaler, se rapprocher de la fonction symbolique du père. Être un père réel, c'est déjà plus qu'assez.
C'est page 204, je pense. Oui, la fonction est vide puisque elle représente une absence. Et donc il n'y a pas de possibilité de l'incarner. Enfin, de l'incarner totalement. On peut que... Au fond, ça revient à dire que le père n'est qu'un semblant.
On la représente.
Oui, on la représente.
Mais l'incarner...
Oui, c'est ça, l'incarner, c'est déjà. Voilà. Alors, c'est délirant. Hein. Alors, on a des pères comme celui de Schreber. Mm-hmm. Père qui, lui, se prend pour le Dieu Tout-Puissant, pour celui qui dit « Je suis celui qui est ».
Le père de Rio qui est une mère.
Oui. Et d'une certaine manière, on peut dire aussi que dans la manière dont fonctionnent actuellement les couples et les familles, on n'a plus une répartition aussi claire de qui occupe la fonction paternelle. Chacun occupe un peu l'une, occupe un peu l'autre selon les moments. Enfin, tout ça peut bouger davantage que dans cette fixité du début du XXe siècle où... Le pauvre père réel devait incarner de manière plus rigide cette fonction-là dans l'imaginaire. De manière plus coincée, comme maintenant. On peut jouer un peu tout ça. On peut mettre un peu de l'huile dans les rouages. Mais c'est quand même toujours bien présent. Je veux dire, vraiment... La question de l'Œdipe et de la question de la castration, c'est toujours très présent dans les analyses. Ça, c'est quand même ce qui est frappant, c'est que ça n'a pas changé d'un hiatus, ni d'un iota d'ailleurs, plutôt. Décidément, le brouillard est terrible. ça n'a pas bougé d'un iota tout le temps passé depuis Freud. Éventuellement, ça prend d'autres petites tournures. Enfin, il y a un peu de vocabulaire différent, mais au fond du fond, c'est quand même toujours la même chose. C'est le roc de la castration, il est toujours bien là, quoi.
D'ailleurs, je voilà, ça c'est écoutant, si on veut un peu complexifier, sans trop oublier, mais c'est quelque chose que Lacan a toujours insisté. Qu'est-ce que Lacan concerne notre le Oedipe et la castration? Lacan sur le Oedipe a été finalement assez. Dès qu'il a été critique, c'est un euphémisme. Par contre, sur la castration, déjà ici, c'est très frappant.
Ah, oui.
À quel point, je ne sais pas si les gens remarquent en disant ça, mais bon, le Oedipe, il le reprend, parce que Freud l'a amené, je ne sais pas si on sort dans le livre de l'enthousiasme. Alors que la question, il fait vraiment du pivot, me semble-t-il, ça
oui.
De l'Oedipe, c'est celle qu'on fait oui. De castration. C'est pas pareil.
Non, en effet, non.
L'Oedipe, c'est quand même maman.
Il logifie très fort.
La castration, c'est le moment. Il va faire quand même la castration, il ira plus tard que le type inévitable, mais jamais la castration.
Tout à fait. Oui, plus que l'Œdipe, c'est la castration qui est là, le roc, la constante que l'on retrouve. Alors l'Œdipe est toujours là, mais avec c'est plus ce qui varie dans ces aspects. Parce qu'au fond, c'est une petite histoire. Les histoires peuvent un peu varier, prendre d'autres formes. Mais le réel, c'est quand même le réel du roc de la castration. Ça, on l'est tout, enfin, on le touche toujours, quoi.
Plutôt parler finalement d'un rapport au père, à côté de changer de vie. Enfin, il y a une perversion, il y a la castration, mais le libre rapport à la mère n'est pas nécessairement quelque chose de plus présent. Enfin, il y a encore beaucoup de variations possibles.
Oui. C'est une petite question. Est-ce que finalement tout ne se joue pas entre 3 et 5 ans?
Oh, que c'est pessimiste, ça. Et pourquoi après on ne peut pas encore avoir des ouvertures, rectifier des choses? Non, enfin. Moi, j'ai d'expérience, c'est vrai que plus on reçoit. Quand il y a des difficultés, plus on reçoit un enfant jeune, plus il y a de possibilités de faire bouger les choses et d'obtenir un résultat thérapeutique satisfaisant. Là, je pense au Calour, hein. Je pense spécialement, quand je dis ça, à un enfant du Courtil qui est arrivé à 3 ans dans un état autistique. Eh bien, maintenant, pour qui n'est pas du Courtil, donc qui ne connaît pas son histoire, ni la clinique du cas, c'est un jeune qui est guéri, au sens banal du terme de guérison. Alors, nous savons les petits rouages et les petits... on a là-dessous une paranoïa à bas bruit, bien cachée, bien... Et bien installé, et ce qui fera sans doute jamais de problème, qui simplement s'intégrera dans un style paranoïde assez banal et commun qu'une vie entre guillemets normale peut soutenir. Et donc il est guéri. Mais ça, ça n'a été possible avec celui-là que parce qu'il est arrivé très tôt, d'être à ce point-là transformé par tout son parcours. Maintenant, avec ceux qui arrivent plus tard, il y a aussi des bougies formidables possibles. Il y a encore des choses à faire, il y a toujours des choses à faire. Et donc, même quand ils arrivent à l'âge adulte, il y a toujours des choses à faire. Donc, tout se joue entre 3 et 5 ans. Bah, d'abord, avant 3 ans, quoi, ça se joue rien. Et puis, après 5 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc... Oui, c'est des périodes importantes, certainement, où des choses se mettent en place, mais c'est un peu figer trop le parcours que de le dire comme ça.
Ça, c'est le succès du cours, c'est le succès planétaire du complexe de l'île.
Mais
tout se joue entre 3 et 5 ans, enfin, 5 ans, des clins de l'île, parce que ça fait fi quand même d'un autre événement constituant, dont on ne parle pas quand on parle de l'île, etc. Quand on parle de castration, on l'évoque un peu, mais quand même, le rapport à la jouissance, notamment sexuelle, se passe. Bon, bien sûr, avant 3 ans, il se passe significativement beaucoup de choses dans ce domaine. À 5 ans, c'est absolument horrible. Enfin, ce qui se passera plus tard, à quel moment c'est un prix. Nous sommes d'accord. Hein? Il y a des choix d'orientation sexuelle, après tout, qui ne sont absolument pas fixés à 5 ans, mais les premières rencontres sont décisives. Sont décisives, et après coup, tout est prévisible après coup.
Après coup, tout est toujours prévisible, oui. Oui. Ça, c'est facile, oui.
C'est le seul domaine où les choses sont prévisibles. Hein? Et donc, vous savez que Lacan disait que personne n'était adulte avant 25 ans. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Si on gauchit une phrase d'un texte, on arrive à ça. Hein? Nous gauchissons. Hein? Il dit 25 ans. Donc, 3 et 5 ans, c'est.
Oui, alors, on pourrait aller plus loin après dans la déviance, de dire, alors il faut mettre tous les enfants en analyse entre 3 et 5 ans. Ce qui serait vraiment... C'est du genre prévention, exagéré. Oui, du côté de la prévention. Folle. Oui. Oh, c'est évident, oui, que les choses se rejouent quand même. Et puis même, de toute façon, si on s'en tient à dire que tout se joue entre 3 et 5 ans, à quoi bon faire une analyse, si on ne peut pas rejouer un peu tout ça?
Mais là, c'est intéressant, parce que vraiment, quand le père symbolique est impensable, et cette question-là, elle se répond vraiment.
Mm-hmm.
Parce que si on est dans le monde symbolique et imaginaire, vous avez tout à fait raison, entre 3 et 5 ans, rideau. Hein, on a le livre, vous avez votre programme, et l'ordinateur fonctionne.
Mm-hmm.
Hein, mm-hmm.
Dieu merci, oui.
Dieu n'a pas le réel, vous voyez pourquoi.
Eh oui. Ici, oui. On n'est pas à l'Université catholique de Louvain.
Bon, eh bien, nous vous remercions et on se retrouve d'ici un an, mais d'ici très peu de temps. Bonne fin d'année à tous et bonne fête. Au revoir.